marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
1968, le printemps de Prague.
Avec Dubček, il va arriver une équipe qui va faire une chose extraordinaire. Elle va tout ouvrir. Les secrets du parti, le rôle des soviétiques qui traitent la Tchécoslovaquie comme un pays colonial, le rôle des soviétiques dans les procès comme le procès Slansky. Ils vont redonner la liberté aux syndicats qui balancent les vieilles directions. Donner la liberté aux membres du parti qui balancent les types de l'appareil. Ça a duré pendant 4 mois. Ça a été quelque chose de fantastique comme épreuve de vérité.
Pierre Dex. 1938, 1948, 1968, une série de dates décisives pour le jeune État tchécoslovaque né seulement en 1918. 1938, les accords de Munich commencent à défaire la République des professeurs Masaryk et Beneš, une République qui s'était voulue égalitaire et laïque. Fin d'une époque cosmopolite qui avait vu s'épanouir une belle floraison artistique et naître une vraie puissance industrielle. 1948, une nouvelle république a été rétablie après la guerre, mais elle n'est plus tournée vers les puissances occidentales qui l'ont trahie. Elle n'a retrouvé son territoire qu'au prix d'un alignement sur les choix politiques et stratégiques de l'URSS. Elle doit renoncer sous la pression de Staline à bénéficier du plan Marshall. Le pluralisme s'est maintenu pendant 3 ans, mais en février 1948, c'est le coup de Prague. Le parti communiste de Clément Gottwald détient seul le pouvoir. L'économie nationalisée, satellisée et réorientée vers l'Est. Le parti entreprend épuration sur épuration. Les démocrates non communistes, les agents du Vatican, les partisans ou supposés tels de Tito, le Yougoslave. Les non communistes ont fourni le plus grand nombre de victimes. Les communistes sont touchés à leur tour. Et c'est d'eux, évidemment, qu'on se souviendra le plus. Leurs noms ne cesseront de circuler à bas bruit dans la période de glaciation stalinienne qui s'ouvre. Slansky, le secrétaire général lui-même, le professeur Kolchtuker, Gustav Husak et London, vice-ministre des Affaires étrangères. Son livre, L'aveu, paraîtra en 1968, avant un film où Yves Montand interprétera son rôle, tandis que Signoret sera sa femme, Lise, la fille d'un important dirigeant communiste français.
Est-ce que vous avez vu Gérard cet après-midi? Ah, il n'est pas passé. Zavodsky est là. Ah bon, merci, excusez-moi.
Perquisition.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non! Là-haut, il y a des enfants qui dorment. Qu'est-ce que ça signifie?
Madame, nous avons l'ordre de perquisitionner.
Perquisitionner? Moi, j'ai une ligne directe avec le comité central. Nous allons appeler le secrétaire général. Nous verrons bien ce qu'il a à en dire. Vous avez un mandat?
Pas besoin de mandat. Je vous ai déjà dit, madame, que nous avons l'ordre de perquisitionner.
Et moi, je vous dis que je ne vous laisserai pas perquisitionner sans un mandat. C'est mon fils aîné. Il est né en prison, en France, à La Roquette. C'est une prison à Paris.
Et pourquoi vous avez été en prison?
Parce qu'en 1942, les Allemands mettaient les communistes en prison. J'étais condamnée à mort, mais j'ai pas été exécutée parce que j'étais enceinte.
Vous avez été longtemps en prison?
Non, j'étais déportée à Ravensbrück. Mon fils est le plus jeune prisonnier politique de France. Mon mari lui a été envoyé à Mauthausen. NN, nuit brouillard. Vous connaissez? Ça sont des photos de mon mari pendant la guerre d'Espagne. Et puis en France, pendant la résistance. Non!
Alors inutile, Lise London, d'appeler le secrétaire général parce que lui-même est en prison. En Tchécoslovaquie, la déstalinisation sera difficile. Le leader, Gottwald, a bien contracté une pneumonie fatale aux obsèques de Staline, mais son successeur, Antonin Novotny, il est aussi raide. Cependant, à partir de 1963, une nouvelle génération de dirigeants parvient progressivement aux responsabilités. Elle est porteuse de 3 questions. Celle de l'égalité des Slovaques et des Tchèques, qui pourrait aboutir à une fédéralisation du pays. Celle de la réforme de la planification économique, laquelle a abouti à plus de mensonges que de réussites. Celle, récurrente, des victimes du stalinisme. La société se met lentement en mouvement. grignotant l'espace que leur laisse peu à peu le parti, apparaissent de nouveaux talents d'écrivains. Rabal, Havel, Vatchulik. Et au cinéma, ce sont Yeri Menzel, Vera Chitilova, on se souvient des Petites Marguerites, Milos Forman, Les Amours d'une Blonde. L'Europe occidentale leur fait bon accueil. Et à Paris, le journal qui leur accorde le meilleur écho, c'est l'organe culturel du Parti communiste français, les Lettres françaises. Aragon, leur directeur, se rachète de beaucoup d'années de silence. Il surnomme alors son journal les Lèvres françaises.
Vous étiez rédacteur en chef des Lettres françaises et à l'époque, vous aviez largement ouvert les colonnes de votre journal aux contestataires tchécoslovaques.
Ah mais à l'époque, ça n'était pas des contestataires. La Tchécoslovaquie était le seul des pays sous le joug communiste à avoir connu un grand développement industriel, des expériences démocratiques entre 1918 et 1938 et entre 1945 et 1948.
Oui, avant le coup de Prague, justement.
Avant le coup de Prague, c'était un pays comme la France, et même mieux que la France, pour une raison simple, c'est que il y avait une meilleure industrie, elle n'avait pas été détruite par la guerre, enfin, c'est un pays libre. Et le carnage stalinien a été énorme, avec... Il y a eu plus de tués qu'ailleurs, plus de torturés, et le carnage culturel épouvantable. Au début des années 60, dans le monde qui a changé, après Khrouchtchev, après diverses autres choses, la Tchécoslovaquie se réveille. On le sait très bien en France avec le film Milos Forman, le roman La plaisanterie.
Les Amours d'une Blonde, etc.
Exactement. Oui, oui. Et le congrès des écrivains en 1967 déclenche l'épreuve de vérité. Ils disent, c'est fini le mensonge, il faut parler.
Le congrès des écrivains 1967, ce congrès des écrivains était préparé avec cet esprit de responsabilité vis-à-vis de la société, donc avec des critiques de la politique du parti, mais d'une critique constructive. Et comme le parti voulait, il avait une partie qui voulait empêcher cette expression de liberté, ils ont essayé d'effrayer les écrivains. Et les écrivains ont réagi en accentuant, si vous voulez, leur contestation. C'est ainsi que Pavel Korhod a proposé de lire la lettre de Solzhenitsyn, que la direction voulait absolument interdire pour ne pas créer des conflits avec Moscou. Et c'est ainsi que le congrès des écrivains s'est donc transformé dans un conflit ouvert avec la direction du parti. Et dans un des points explosifs qui ont fait éclater la crise, c'est-à-dire ce congrès des écrivains, puis le conflit entre Novotny avec les Slovaques, puis la démonstration des étudiants en automne qui a été supprimée. Tout cela ensemble a amené à l'éclatement à la fin de l'année.
Yeri Pelinka, qui deviendra pendant le printemps le directeur de la télévision, et auparavant c'était encore Pierre Dex, qui était alors le second de Louis Aragon. Les brèches qui sont ouvertes par les intellectuels, Antonin Novotny, tentent en vain de les combler. Parce que la jeune génération qui est parvenue aux manettes du parti le juge maintenant inadapté au monde nouveau.
Prague, eh bien c'est fait. Antonin Novotny, 63 ans, président de la République depuis novembre 1957, a démissionné. Un point final a été mis ce matin à la crise, c'est ce que nous allons voir avec le correspondant de l'agence France Presse et de France Inter à Prague, Paul Babelin.
Un point final a été mis ce matin à la crise que la question du retrait du président de la République faisait planer sur la vie politique du pays. Monsieur Antonin Novotny a demandé au comité central du Parti communiste, qui a accepté avec empressement, de le relever de ses fonctions de président de la République. M. Novotny, qui jusqu'à maintenant restait sourd aux appels lancés de toutes parts demandant son départ, a finalement entendu la voix de la raison. Sa ténacité aurait pu provoquer de sérieux remous au sein du comité central si ce dernier avait été contraint par l'entêtement du chef de l'État de prendre une décision qui, en définitive, aurait été un blâme. En invoquant son état de santé, M. Novotny fait une sortie honorable de la scène politique. Son départ constitue sans aucun doute un succès éclatant pour la tendance progressiste qui pourra dorénavant se consacrer à la réalisation de son plan d'action qui vise à l'instauration d'un socialisme démocratique dans le pays.
Le printemps de Prague, c'est-à-dire la crise au comité central au mois de décembre 67 et janvier 68, qui était résolue par la résignation de Novotny du poste du premier secrétaire et par l'arrivée de Dubček, et puis toute une série d'autres pas, et aussi le mot d'ordre socialisme à visage humain, ont convaincu les gens qu'il faut les soutenir. Et les gens ne discutaient pas si c'est le socialisme ou non. C'était nous, des marxistes, qui étaient très minoritaires, qui disaient, mais c'est pas un socialisme, c'est la dictature de la bureaucratie, et non pas le socialisme. Mais le soutien était toujours actif, c'est-à-dire les gens participaient au changement des rapports sociaux et de la situation politique. Participaient activement.
Petr Hull, dont la spécialité était la critique marxiste, des États ouvriers bureaucratiquement dégénérés. Le printemps de Prague va se dérouler sur deux niveaux. Premier niveau, l'appareil du parti. Le nouveau secrétaire général se nomme Alexander Dubček, 46 ans. C'est pas qu'il ait un charisme fou, mais il bénéficie de la grâce de la nouveauté. Pensez, il sourit. Et au lieu, à peine nommé, d'aller baiser la babouche de Brejnev à Moscou, il préfère se rendre à un match de hockey chez lui, à Bratislava, en Slovaquie. En même temps qu'il est dirigeant du parti, il fait figure de chef de l'opposition aux yeux de l'opinion, car le deuxième niveau du printemps, c'est justement celui de l'opinion. Elle se réveille d'une longue glaciation. Dubček a levé la censure dès février et l'action politique sort brutalement du cercle exclusif du parti. Partout se tiennent des réunions, des assemblées. Le professeur Goldstucker, élu à la tête de l'Union des écrivains, en tient plusieurs par jour. On dit qu'à Paris, en mai de cette année, on avait pris la parole comme on avait pris la Bastille. Alors que ne pourrait-on dire de Prague ? Les étudiants ne sont pas interdits d'usine comme en France par la CGT. Et les Tchécoslovaques se sont émancipés, eux, de la gangue marxiste-léniniste que les gauchistes français imposent à notre vocabulaire. L'individu parle en son nom propre, le peuple devient un être concret.
Ce soir-là, c'est la grande réunion du 20 mars, convoquée pour 19h dans les immenses salles du parc Foutchik. Dès 17h, on s'écrase aux portes pour entendre les responsables de la nouvelle vague. Ils seront présents à l'exception de M. Dubček. 10 000 garçons et filles venus de tout le pays vont battre ce soir-là un triple record d'enthousiasme, de discipline civique et surtout d'endurance. La réunion en effet durera 6h30 sans interruption dans une vapeur tropicale. Les questions posées par écrit affluent vers l'estrade. Pas une minute la tension ne se relâche. Il y a 20 années de silence à rattraper, les vannes sont ouvertes.
La salle pose des questions et les orateurs répondent. La parole se libère, tout y passe, surtout le passé. On réclame le droit à la démocratie, l'abolition de la censure.
Je viens de recevoir une question. On veut savoir si l'on a pris des mesures contre la censure. Mes amis, la censure a cessé d'exister. Bien sûr, beaucoup de gens vont perdre leur emploi.
Mes chers amis, on a toujours pensé que c'était l'URSS qui menait la barque chez nous. Si quelqu'un le croit encore, eh ben, mes jeunes amis, ils se trompent lourdement. Ce temps-là est révolu. L'époque a créé une période au cours de laquelle le parti a presque tout dirigé. Dorénavant, le traitement des affaires d'État est sous la seule responsabilité du gouvernement de la République.
Comment est-il possible qu'un camarade se ligue contre un autre camarade, que des gens qui se connaissaient depuis des années aient perdu confiance les uns dans les autres? Je n'ai pas vécu ces années dans notre société. Croyez-moi, je me suis dit que j'étais peut-être mieux là-bas en prison. que parmi ces gens qui subissaient une pression psychologique telle qu'ils en venaient à souhaiter la condamnation à mort de ceux qu'on leur désignait comme des criminels.
La télévision que dirige Yuri Pelikan dorénavant entre dans la danse. Y a-t-il beaucoup de pays au monde où on a vu des émissions se faire depuis des usines qui n'étaient ni en grève ni occupées, mais déterminées à exposer leurs questions paisiblement? Le printemps de Prague n'a connu nulle violence, c'est ce que Milan Kundera a appelé la possibilité tchécoslovaque. Musique maintenant, les premiers groupes de rock à s'accomplir tirèrent évidemment parti de l'époque, mais la chanson peut-être la plus reprise, c'est la prière pour Martha. Son interprète jouera un rôle politique important dans la suite des années. Martha Kubisova demande alors par priorité que sa terre demeure en paix. Les ténèbres se lèvent, note la chanson, mais lentement. L'écrivain Václav Havel ne dit pas autre chose, il faut aller à son rythme, ne pas essayer de presser le pas au risque d'inquiéter le tuteur soviétique. Personne n'oublie que la position géographique du pays est telle qu'il représente un enjeu majeur pour l'Empire soviétique. Marta Kubisova.
Strach a svár ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí z oblohy mrak. Zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Un autre 68, le printemps de Prague. Le printemps de Prague qui n'est pas celui de Paris. En Tchécoslovaquie, on n'a rien contre la société de consommation puisque on est encore dans la pénurie. En même temps, personne, quasi personne, ne prône une économie capitaliste, à la différence de ce qui se passera plus tard en 1989. Dès la Première République, avant la Deuxième Guerre, un peu de socialisme avait été injecté dans l'économie. Et les techniciens de l'économie de 1968, au parti, ne sont aucunement des adeptes du capitalisme, ni le grand réformateur Otachik, ni ici Alexander Hort.
Le commencement de toutes nos difficultés économiques se date depuis 48, depuis février 48. Parce que pour nous, le rideau de fer est venu sur le plan économique. Vous le savez sans doute que notre commerce extérieur est orienté, je ne sais pas, 70-75% vers l'Occident. Et en 3-4 mois, on a plus ou moins coupé toutes les relations économiques de notre pays avec l'Occident, avec notre marché
naturel,
disons, n'est-ce pas? Alors, les différents changements que notre économie nationale est obligée de faire, ça signifie la réorientation vers le marché socialiste, spécialement de l'Union soviétique. Et à la fin, c'est le problème de développement technique, parce que le marché socialiste est assez large pour nous. Mais ce qui nous manquait, c'était le contact avec le sommet de la technique. Et la technique développée chez nous dans l'industrie était toujours une technique en retard, parce que le marché socialiste ne nous poussait pas à la production la meilleure de point de vue technique.
Dans l'avenir, si on envisage de libéraliser quelque peu le régime, est-ce qu'on envisage de réintroduire la notion de profit et sous quelle forme?
Ah oui, certainement. Certainement, parce que jusque présent, la notion d'après laquelle on jugeait la réalisation d'un plan, c'était quantitatif. Et nous produisons plus d'acier par tête que les États-Unis, mais sur le plan réel du marché, vous ne le voyez pas. Alors, on a compris que c'est un calcul faux de chercher à contrôler la réalisation du plan d'après les quintos de tonnes. C'est pourquoi, sans le profit, on ne peut rien faire dans le changement économique que nous sommes en train de faire.
Envisagez-vous dans l'économie, et particulièrement dans le commerce en Tchécoslovaquie, de réintroduire la notion d'initiative privée?
Ah oui, certainement. Il faut le faire. Il y a certainement quelques limites. Si vous parlez de l'initiative privée sur le plan d'artisanat, etc., j'en suis sûr qu'il faut le faire. Mais il y a certaines limites.
Et d'autres mots sont encore employés, co-gestion, auto-gestion, comme dans la Yougoslavie de l'époque. Pris entre les réformateurs de l'économie et les intellectuels débordants d'énergie, les derniers conservateurs à occuper encore des postes perdent leur dernière position. En mars, c'est la présidence de la République au château du Radchin qui tombe à son tour.
À Prague, on prépare l'élection du successeur du président Antonin Novotny. C'est le général Svoboda, célèbre dans l'armée tchèque, apprécié au Kremlin, qui semble le mieux placé.
Fin mars.
Victor Vraiment, qui est l'œil de France Inter à Moscou, nous explique maintenant comment au Kremlin on apprécie les tendances nouvelles qui se manifestent en Tchécoslovaquie.
À Moscou, on aurait tendance à raisonner ainsi. L'élection d'un nouveau président en Tchécoslovaquie devrait, dans une grande mesure, freiner le mouvement de libéralisation qui était dirigé contre M. Novotny. Monsieur Dubček a certainement donné des assurances aux soviétiques sur le maintien de la Tchécoslovaquie dans le pacte de Varsovie et le Comecon, le marché commun de l'Est. Mais si à Moscou l'inquiétude a cédé la place à la résignation, c'est qu'on pense que monsieur Dubček n'a pas intérêt à aller trop loin puisque ce mouvement pourrait se retourner contre lui et contre le parti communiste qu'il dirige.
Dans les pays du pacte de Varsovie, la Roumanie de Ceausescu est la seule à soutenir la direction de Prague. Les dirigeants polonais sont particulièrement hostiles. Il est vrai que Gomulka, à l'époque, s'obstine à expulser les juifs du parti et du pays. Il admet mal l'évolution de Dubček, qu'on qualifie de plus en plus de socialiste à visage humain. À Rome, le siège du Parti communiste italien, rue des boutiques obscures, émet en revanche des signaux d'amitié. Et à Paris, le PCF balance les durs avec Jeannette Torres, Georges Merchet, marque leur hostilité, tandis que le secrétaire général, Waldeck Rochet, voudrait comprendre, mais il s'est satisfait pendant 30 ans des explications des soviétiques, qui ne veut pas croire qu'ils entreront en lutte frontale avec Dubček. Pourtant, le 4 mai, les dirigeants tchécoslovaques sont convoqués en urgence à Moscou.
À Moscou, la nuit dernière, les trois dirigeants soviétiques, Kosygin, Brezhnev, Podgorny, étaient à l'aérodrome pour accueillir une délégation tchécoslovaque conduite par M. Dubček. De Moscou, Georges Bortoli.
Cette présence était évidemment normale et protocolaire, ce qui l'était moins, c'était l'heure de cette arrivée. 2h du matin, ce n'est pas l'horaire habituel pour une visite officielle. Tout se passe comme si les dirigeants tchécoslovaques avaient sauté dans leur avion spécial dès que les travaux de l'Assemblée nationale de Prague ont été terminés hier soir, sans perdre une seule minute. On peut donc se demander si cette rencontre de Moscou ne présentait pas un certain caractère d'urgence. En fait, les contacts soviéto-tchécoslovaques ont été singulièrement actifs ces derniers temps. M. Dubček était à Moscou en fin janvier, M. Brezhnev était à Prague en février, puis en mars, c'est M. Tchernyk qui est venu à Moscou à son tour, sans parler des réunions de Budapest, de Sofia, de Dresde. Et malgré cela, on a toujours, vous voyez, beaucoup de choses à se dire et même des choses urgentes. Les dirigeants soviétiques, c'est normal, sont inquiets de l'évolution des événements en Tchécoslovaquie. Hier soir encore, à Prague, s'est déroulée une manifestation d'étudiants au cours de laquelle on a entendu, paraît-il, des slogans peu amènes à l'égard de l'URSS.
Notre consoeur Marthe Dumont a rencontré à Prague le premier vice-ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères, M. Vasil Bilak. M. Bilak a d'abord tenu à réaffirmer l'attachement de son pays, la Tchécoslovaquie, à l'URSS.
L'alliance entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique, c'est la base de notre politique étrangère. Cette alliance résulte de nos expériences historiques, de notre position géographique, et aussi du fait que la Tchécoslovaquie est un pays socialiste comme l'Union soviétique.
Aux Occidentaux qui imagineraient qu'une
modification de la politique générale de la Tchécoslovaquie signifie un détachement du camp socialiste, vous répondriez qu'il se trompe.
Non, naturellement, il ne s'agit pas d'un détachement. Il s'agit pour nous seulement du fait que la voix de la Tchécoslovaquie dans le concert de la politique des pays socialistes soit attendue avec plus d'attention, n'est-ce pas, et aussi en Europe occidentale.
Puis-je vous demander de quelle manière cette nouvelle définition vers le socialisme de la Tchécoslovaquie est accueillie par d'autres pays socialistes, par des pays alliés comme la Pologne, comme l'Allemagne de l'Est?
Je crois qu'on suit avec beaucoup d'intérêt dans les pays socialistes notre expériment, qui correspond naturellement à notre situation, à nos conditions. Je crois que maintenant, dans le mouvement communiste et aussi dans les pays socialistes, on respecte, on a admis la thèse et le principe des voies spécifiques vers le socialisme, n'est-ce pas ?
Jiří Hájek, vous étiez le ministre des Affaires étrangères de Dubček.
J'ai dû limiter mon attention et mon activité à la défense contre les alliés, à la défense contre les soupçons des alliés, défense pacifique, bien entendu, à leur prouver que loin de nous éloigner du socialisme, loin de nous éloigner de l'alliance, que le printemps de Prague, que la démocratisation nous amenait vers plus du socialisme et nous rendait capables d'être meilleurs alliés plus valables.
Comment ça se passait, ces discussions pour les convaincre? Quels étaient les arguments que vous employiez?
Tout d'abord, je leur tâchais de démontrer qu'il n'y avait aucune tendance du retour vers la propriété capitaliste chez nous, que pas une seule coopérative agricole ne s'est désintégrée, pas une seule entreprise, les organes d'autogestion n'ont pas demandé un retour à la propriété privée, que tout au contraire, ces éléments démocratiques s'efforçaient ensemble avec toute notre population de construire une société vraiment socialiste, humaniste, et démocratique.
Et les discussions en parallèle à Paris, par exemple, au Quartier Latin. Écoutez ce dialogue avec attention. Une étudiante tchèque qui s'étonne de ce qui se passe dans la capitale française et un rhéteur d'extrême gauche très aguerri.
Je voudrais bien que tu m'expliques pourquoi ça arrive, tout ça. Beaucoup de gens ici que je connais qui se disent communistes, ils ont l'air d'être assez heureux, même contents dans leur vie pratique, etc. Alors pourquoi ils deviennent communistes?
C'est-à-dire, ce qui se passe en France, c'est que beaucoup des communistes que tu as pu fréquenter, qui sont fils de bourgeois, ils sont arrivés par la voie de la théorie.
Oui. Hein ?
Or, ce même processus intellectuel, qui est une analyse de la société, conduit à une action précise, qui est la nécessité de faire la révolution avec un certain nombre de moyens qui sont tirer des textes de Lénine, c'est-à-dire la violence des textes de Mao Tse-Tung, c'est-à-dire la nécessité du peuple en armes, la théorie de la guerre révolutionnaire, etc. Hein ? Et en même temps, cette révolution, pour ne pas tomber dans la voie tchécoslovaque, qui est finalement un retour à une société de type bourgeois, doit être poursuivie jusque dans l'élimination de l'idéologie bourgeoise elle-même, c'est-à-dire la nécessité de poursuivre la révolution de type économique par une révolution culturelle.
Est-ce que j'ai compris, alors tu appelles ça ce qui se passe chez nous, que c'est une régression, c'est pas une progression?
Oui, si tu veux, c'est une régression, en ce sens que ça retourne à des formes de ce qu'était la Tchécoslovaquie avant, ça retourne à une forme de bourgeoisie, et c'est pas totalement un gouvernement du peuple, ni un pays communiste tel qu'il doit l'être, défini d'après la théorie.
D'après la théorie, dont acte camarade Ilinka Negulesco qui a préparé cette émission, a puisé dans les ressources de la télévision, les brûlures de l'histoire, 5 colonnes à la une, dans les ressources de France Inter, Roger Pilaudin, dans les ressources de France Culture, Antoine Spire. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, avec à la technique Michel Bézikian.